Radio Bac, le 33e de notre 11e série, deuxième partie, avec notre invité Henri Martin, maire de Port-la-Nouvelle, président du Grand Narbonne, vice-président du Grand Narbonne. On va y revenir également parce qu'il y a une implication entre les uns et les autres, de plus en plus marquée d'ailleurs. Mais on en était, monsieur le maire, sur l'approfondissement du port. Ça y est, ça fonctionne, on a des gros bateaux. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner comme activité portuaire à ce stade ?
Mais à ce stade, donc, comme je vous le disais, les bateaux qui vont fréquenter Port-la-Nouvelle sont des bateaux modernes. Modernes par leur carburation, autrement dit, ils seront beaucoup moins polluants. Ils seront plus longs et ils auront un tirant d'eau plus important. La hauteur de tirant d'eau était au maximum à 8 mètres au quai Est, dit quai Est, le plus profond, et va passer à 16 mètres. Et donc, va permettre d'opérer des navires qui vont faire jusqu'à 225 mètres de long, alors quand on arrivait à 180 mètres, c'était le maximum, plutôt 160, une trentaine de mètres de large, et donc 14,50 de tirant d'eau.
Oui, ça change la physionomie quand même de ce qui se passait.
Ça change surtout la physionomie de la flotte qui fréquentait la Nouvelle. C'était parfois des vieux bateaux qui étaient réformés de la Volga, qui n'avaient pas de tirant d'eau d'ailleurs. Quand il y a eu le fameux coup de mer il y a une dizaine d'années, les bateaux étaient partis sur la plage, ils étaient incontrôlables. Donc ce sont des vieilles coques qui fréquentent le port et qui, je vous le rappelais tout à l'heure, sont particulièrement polluants et émettent beaucoup de particules de soufre, etc. Donc les nouvelles lois n'ont pas
forcément envie. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne.
Et ça va être l'histoire ancienne. Il faut être un petit peu patient. Oui, oui. Mais disons que en 2030, une circulaire donc mondiale, un accord mondial, va faire en sorte que les bateaux qui pollueront au-delà de certaines émissions ne pourront plus donc fréquenter les ports actuels. Et ils seront donc obligés de se brancher sur le quai du port pour pouvoir alimenter leur consommation à l'arrêt. Ça s'appelle donc, c'est une accélération pour la décarbonation du secteur maritime.
Mmh. Et alors,
le Fit for 55.
Voilà, bon, évidemment c'est en anglais comme tout le reste, ou
presque. Je peux vous le dire en occitan si vous voulez, ça veut dire en 2035 qu'il va falloir être vertueux.
Voilà, bonne traduction que tout le monde aura sans doute bien intégrée. Alors, quand même un petit mot sur qui a payé pour finalement l'approfondissement de ce port ? Un petit historique là encore, monsieur Martin.
Le petit historique, c'est que le port appartient à la région Languedoc-Roussillon. À partir du moment où la région en a été propriétaire, elle a mis fin d'une part au contrat de gestion de la Chambre de commerce et d'industrie de Narbonne.
Qui était le précédent propriétaire.
Oui, non, le gestionnaire.
Gestionnaire.
Le propriétaire, c'est l'État.
C'est ça.
L'État bascule sur les régions. Lorsque ça bascule sur les régions, la Chambre de commerce donc est remerciée, puisque la région a pour ambition de moderniser le port. Qui a financé l'opération ? La région. Puisque, à cette époque-là, c'est contrairement aux analyses de rentabilité et de faisabilité qu'ont fait apparaître des études européennes. Pour l'Europe, quand on dézoome, on s'aperçoit qu'à Barcelone, il y a 7, il y a Marseille, ça allait, pour la Nouvelle, après tout, il y aura ce qu'il y aura. Donc la région Tétu veut moderniser le port. Le Tétu numéro 1, ce fut Georges Frêche, et je l'en remercie bien entendu, parce que nous nous sommes rencontrés donc en 2006, il y a 20 ans, et c'est la première fois qu'on envisage donc une collaboration avec Narbonne, avec le soutien politique de Jacques Bascou, pour que le port soit modernisé. Et puis ensuite, suivent Christian Bourquin, qui, fidèle aux engagements de Frêche, a continué à soutenir cette particularité du port. Il faut dire que certaines amabilités que la politique rend obligatoire faisaient que les Sétois ne voyaient pas la chose forcément d'un bon œil. Voilà. Et les Sétois confortaient, avec un apport de voix communiste non négligeable, les majorités de la région respective. fraîche, oui. Bourquin et Madame Delga.
Donc il a fallu que quelqu'un prenne le contre-pied un peu.
Oui, voilà, bon, il faut comprendre que bon, ce sont des affaires d'équilibre politique, on le vit actuellement d'une manière plus lisible au national, alors qu'on était mal habitué à avoir des majorités franches, maintenant il faut composer en permanence, ce qui fut le cas, et Madame Delga, après avoir été hésitante, c'est pas le terme, mais après m'avoir d'ailleurs dit, au cours de sa visite de propagande électorale, qu'elle allait donc procéder à un audit, une analyse, et qu'elle verrait, appuyée par Madame Langevine, qui est sa vice-présidente, représentant le parti écolo, ont décidé de poursuivre donc la modernisation du port, et c'est la région qui, à hauteur de 250 millions d'euros, avec un apport d'État contemporain de M. Castex, a financé les premiers deniers de rénovation du port. Elle fut suivie par un engagement de l'agglomération du Grand Narbonne de 30 millions d'euros.
Oui, voilà, il y a une partie également agglomération importante.
Oui, et le département 30 millions. Voilà. Oui. Et à partir de là, elle a donc changé le système de gestionnaire pour une CEMOP, c'est-à-dire aussi une société d'économie mixte, et qui a que cette vocation, de gérer un port, et où la région est partenaire avec la Caisse des dépôts à 49%, et un consortium qui s'est auto-baptisé Nous Vela, représente 51%. On y trouve des gestionnaires de ports, on y trouve des constructeurs de ports, on y trouve des fabricants d'éoliennes, comme QR, on y trouve la Chambre de commerce qui subsiste donc avec 1,9%, dont les groupes sont DEME, Europorte et Epico.
Oui, voilà. Donc voilà, grosso modo, la répartition aujourd'hui...
Voilà. Et le président du conseil d'administration de la CEMOP est confié au premier vice-président de la région, M. Codorniou, que vous avez reçu d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Donc, on avait bien entendu évoquer ce problème-là. Alors, il y a une autre évolution du port qui est celle de l'éolien, et c'est une partie d'ailleurs très spectaculaire, on le voit médiatiquement ces jours-ci, la construction, alors l'assemblage plus exactement, d'éoliennes flottantes qui vont flotter au large de Port-la-Nouvelle, et alors c'est pareil, c'est un projet assez ancien, mais qui est en train de prendre corps là, monsieur le maire.
Oui, deux projets d'éoliennes expérimentales ont été lancés il y a 5 ans et sont en train d'être matérialisés. Le premier est mené par QR et le second par EFGL.
Alors c'est de l'éolien flottant.
Éolien flottant dont la première contingence de 3 machines sera mouillée au large de Le Cat de Barcarès à 18 km, c'est EFGL. La première éolienne a été montée pas plus tard que la semaine dernière. Elle flotte dans le port, elle va être donc aujourd'hui remorquée à son emplacement de stationnement. La seconde va être montée, la troisième. Une fois les 3 éoliennes de FGL en place au large de Le Cat, ce sont celles de QR qui vont être à leur tour montées et qui partiront au large de Gruissan pour la Nouvelle, entre oui, deux. C'est... L'énergie de Le Cat sera distribuée, Le Cat de Barcarès, via un poste source qui a été construit, et l'énergie qui sera fabriquée au large de Gruissan pour la Nouvelle sera débarquée sur le site de Port-la-Nouvelle.
L'électricité arrive par des câbles sous-marins.
Ça, voilà, câbles sous-marins, voilà, exactement.
Et alors ce qui est, c'est difficile à imaginer en radio peut-être, mais quelques chiffres, ces flotteurs par exemple, quelles dimensions font-ils?
La dimension varie en fonction de la technique qui a été retenue par le constructeur. Ils font 40 mètres par 30 en encombrement. Et l'un d'entre eux est constitué par trois machines circulaires, trois structures circulaires, qui sont cylindriques. Et l'autre, par contre, c'est un cube. C'est un parallélépipède qui fait donc une bonne 70 ou 80 mètres de long et qui remplit le même objectif de flottaison de la structure.
Ouais, alors ça, c'est ce qui va flotter. Mais oui, dessus, on y met un mât qui fait une centaine de mètres, plus des pales. Je crois que le tout, paraît-il, peut atteindre les 180 mètres, vous confirmez?
Je pense, oui, c'est pas qu'il va pouvoir atteindre, c'est qu'il va atteindre. Il va atteindre, pour ce qui est des locatois, 186 mètres de haut, si ma mémoire est bonne, et 198 mètres de haut du côté de Gruissan. Voilà. À partir de là, et de cette expérimentation, l'État français a délivré l'AO6, qui est la possibilité d'exploiter la suite des événements, à savoir 250 mégas. 250 mégas, c'est à peu près 18 machines, puisque les puissances vont augmenter. Ce sont des puissances de 10 mégas chacune. Les prochaines feront vraisemblablement 15 mégas.
Oui, ça c'est l'expérience, l'expérimentation, la première.
Voilà. Mmh. Et avec une telle puissance, il n'est pas exclu d'ailleurs que les machines ne puissent pas atteindre
dépasser les 200 mètres.
Dépasser les 200, arriver à 250, et les Chinois même regardent encore plus haut. Enfin bon, pour le moment, c'est pas la peine de virtualiser. Mmh. Toujours est-il que dans les années 30-31, les 250 mégas, à 30 km des côtes, et à peu près au large du Gruissant, toujours en prenant l'axe Gruissant, le triangle Gruissant, Agde, Port-la-Nouvelle, devrait être mouillé, donc pour produire là une quantité d'énergie quand même assez importante.
Mmh. Alors ça, c'est un projet d'État.
C'est un projet particulier qui a été validé par l'État. Mmh. Il est validé par un concours au cours duquel on voit un petit peu ce que ça va faire les gens, puisqu'ils ont fait un système expérimental. On leur impose un cahier des charges respectueux de l'environnement, respectueux des bonnes manières par rapport aux pêcheurs, respectueux par rapport aux oiseaux. On va mesurer la fréquentation des volatiles tout autour des machines. On envisage même à certaines périodes de les arrêter parfois. Donc c'est quelque chose qui est très complet. Les gens répondent à un cahier des charges très très complet. Et ensuite, l'État s'engage à une valeur de rachat du kilowatt qui aide le producteur d'énergie à pouvoir faire son boulot.
Oui, donc alors il s'agit bien de produire de l'électricité avec des éoliens. Des éoliennes flottantes. La raison pour laquelle on s'est lancé dans le flottant, alors que tout le monde connaît l'éolien terrestre, je crois qu'à un moment, les gens ne voulaient plus trop de l'éolien terrestre.
Il y a deux raisons, en synthétisant ce que on peut collecter comme renseignement. C'est que d'abord, il y a une saturation de l'éolien terrestre, je peux le comprendre.
En territoire.
En territoire, en visuel. On peut comprendre que les personnes qui habitent à 200-300 mètres d'une éolienne ont un bruit quand même qui peut devenir à terme insupportable. On peut comprendre aussi que certaines petites communes ont cédé au chant des sirènes parce qu'elles ont tiré un revenu foncier et tiré un revenu de pourcentage sur la production de l'énergie, car les petites communes fiscalement sont complètement parfois
exsangues un peu,
presque exsangues pratiquement, donc on peut les comprendre. L'État, fort justement, et les écologistes qui au départ étaient très favorables à cette énergie propre, eux-mêmes ont dit maintenant on va se calmer un petit peu parce que tout un tas de raisons. Et l'intérêt de le faire en mer, c'est que visuellement, ce n'est pas dérangeant du tout.
On ne les verra pas du tout.
Pas du tout. C'est un petit point à l'horizon que l'on va repérer, qu'on va
s'habituer à voir. Il faudra des jumelles,
alors. Il faut des jumelles, c'est sûr, mais il va falloir que le temps soit particulièrement clair. Mais, si vous voulez, les stations touristiques comme Gruissant, comme Agde, avaient organisé, même le 4, je pense aussi, a dû le faire, avaient organisé des sondages auprès de leurs clients, et dans la mesure où c'est une clientèle quand même de nordique, entre guillemets, de pays du nord de l'Europe, et qui sont habitués à ça, et qui ont dit ne voir aucun inconvénient à pouvoir voir le système de production de l'énergie qu'ils consomment eux-mêmes. Et puis ensuite, l'avantage de l'offshore, quoi qu'on en dise, c'est que les éoliennes vont tourner 24 heures sur 24, ce qui n'est pas le cas des éoliennes terrestres.
Oui, donc,
le soir, lorsque la nuit arrive, le vent se pose un peu, et bien souvent on voit qu'elles sont à l'arrêt, tandis qu'en mer, ça va produire en permanence.
Oui,
et c'est pas négligeable.
Une rentabilité très différente et très supérieure.
Voilà, enfin,
oui.
Voilà.
Ça, c'est...
Mais un coût supérieur et un entretien supérieur. Dès lors que vous marinisez des mécaniques, quelles qu'elles soient, il y a un coefficient de destruction permanent qui est beaucoup plus important à terre.
Oui, alors l'expérimentation démontrera un certain nombre de choses très très probablement.
Bien sûr.
Et alors donc bientôt on aura de l'électricité alors verte, enfin écologique, non polluante, mais à côté de ça, on parle avec cette électricité donc produite en grande quantité de produire également de l'hydrogène et de l'hydrogène fait par de l'électricité verte, donc de l'hydrogène qu'on qualifie de verte, c'est bien ça ?
Absolument.
Donc c'est un troisième point de développement du port de la Nouvelle.
À défaut de développement du port lui-même, c'est un troisième point qui permet de s'inscrire dans une stratégie de renouvelable, dans une stratégie de circulaire, et effectivement qui va permettre de transformer l'électricité en hydrogène, en produit solide.
Et alors, cet hydrogène, bon, ça semble être un carburant du futur. Pour le moment, bon, on n'a pas grand chose qui fonctionne à l'hydrogène, mais on est beaucoup dans l'expérimental aussi, semble-t-il.
Pas particulièrement, puisqu'on sait le produire, hein, par électrolyse.
On sait mal le stocker, paraît-il.
Et on sait mal le stocker, et surtout, il faut lancer un système de consommation et un système consommateur qui puisse desservir tous les véhicules qui seront équipés de ce type de carburant.
Oui, donc l'hydrogène, c'est déjà maintenant, mais c'est surtout pour demain. On marque, Henri Martin, une deuxième pause.